Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. C'est juste en dessous du péage autoroutier de Saint-Germain que Bertrand est installé en Gaec, sur la ferme des Valses, dont l'activité principale est la brebis laitière.
Bonjour, alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Je m'appelle Bertrand, donc je suis sur la ferme des Valses. Donc je travaille avec Guillaume et Thierry qui sont mes associés.
En Gaec ?
En Gaec, voilà. Et on a Bastien comme salarié depuis bientôt quasiment 2 ans.
Voilà. C'est sur quelle commune tu es ?
Sur Millau.
Millau. Et le Gaec, il s'appelle comment ?
Le Gaec des Valses. Donc bon, après, on a des brebis laitières, des brebis viandes, et on fait des céréales, et tout ce qu'on peut faire pour nourrir les brebis, de l'herbe, des usines.
D'accord.
Et,
voilà.
Et l'esprit de l'exploitation, c'est d'être autonome au maxi, quoi. Surtout après des sécheresses 2017-2019 qui nous ont quand même bien préoccupés.
Et combien de brebis vous avez ?
Alors là, 820 brebis à la traite, donc l'effectif moyen sur l'année. Et donc on traite du 15 février au 30 septembre, ça vient de changer. Et on a, bon, pour l'instant, soit des brebis viandes, on a diminué puis on va remonter un tout petit peu.
Des brebis viandes, c'est des lacons
aussi ?
C'est des
costumards du Lot, c'est une race...
Le chien descend.
C'est une race rustique qui nous permet de valoriser les parcours boisés, et ça entretient. Donc là où sont passées les viandes au printemps, on arrive à avoir de l'herbe de qualité pour les brebis l'automne, pour les laitières l'automne. Parce qu'on a vu qu'on arrête de traire le 30 septembre. Mais c'est le cas aujourd'hui, on pâture. Sur les parcours, quoi, et se régale.
Et vous avez combien d'hectares à peu près ?
Alors, c'était associé, donc 4 associés, André vient de partir à la retraite, on avait 5 hectares chacun. Donc maintenant qu'André est parti à la retraite, on a remplacé André par les salariés. Et donc, une exploitation qui a 400 hectares.
400 hectares. Voilà. D'un seul tenant ?
Pas du tout, c'est très très morcelé. Ça se joue par îlot, en fait. C'est, étant donné qu'il y a 4 fermes groupées, on retrouve un petit peu les 4 fermes indépendamment, donc de chaque côté de l'autoroute il y a une ferme, et puis après on va sur celle de Guillaume à Jouc, et après celle d'André à Asignan. Donc voilà, la parcelle la plus loin est à 6,8 km du siège.
Ça reste sur la commune de Millau ?
Non, on est vraiment à l'angle de 3 communes, Casseno, c'est Moselly et Millau.
D'accord. Et vous ne faites pas de fermage du coup ? Alors, tout est à vous ?
Tout ? Non, absolument pas. En propriété, j'ai 33 hectares.
33
voilà.
Sur les 100 ?
Sur les 400.
Eh !
Oui, j'ai 33 hectares de propriété. Ah ouais, le concept, on engrange chez les autres, faut être clair. En propriété, moi personnellement, j'ai 33 hectares. Guillaume, il a 0. Thierry, il a 1 hectare 8. Et André, il a 60 hectares. Donc André, en partant à la retraite, il a acheté 30 hectares à son propriétaire, juste avant de partir à la retraite, en fait. C'est parce que le propriétaire a sauté les vannes, et il les a achetés, puis il nous les loue. Et on a 18 propriétaires différents.
18
alors, ouais.
Ça se passe bien la cohabitation ?
Très bien.
Ouais.
C'est top.
Ah ouais.
Après, le principe de louer, à partir du moment où les statuts de fermage sont respectés, que des deux côtés, des propriétaires et côté fermier, c'est quelque chose que je défends, le statut du fermage.
Ouais.
Et qui est important pour préserver. Mais c'est plus facile à transmettre. Vous avez un bail, le jour où vous êtes plus potable, le bail est libre.
Ouais.
Et comme on dit, on est pas de passage. Le prochain qui arrive derrière vous, et il va voir le proprio, il loue.
Et c'est débrouillé avec.
Ouais. 13 mètres, je ne sais plus, le prix de foncier aujourd'hui ne nous permettrait pas de travailler.
Ouais.
Allez, couchez.
Ouais, alors le loup, c'est un souci, vous y pensez, bon ?
Ben, ça m'a eu stressé, on a eu 2 attaques locales, là, ça s'est pas arrivé chez nous, sur 2017. Donc, à peu jour, les 2 attaques. Effectivement, attaque de loup non écartée, ils ne diront pas que c'est ça. Moi, je ne m'occupe pas du tout du plat de loup, de tout ce qui tourne autour du loup. Je ne veux pas non plus que les gens fassent un fantasme. Mais je dis sincèrement, moi, par rapport au loup, si j'ai un truc à dire, le loup aujourd'hui, c'est important de conserver toutes les espèces aujourd'hui. On discutera tout à l'heure, on fait vachement de travail par rapport à la préservation des oiseaux, pour lutter contre les maladies des sectes, en particulier les criquets, etc. Le loup n'apporte pas grand-chose dans tout ça. Dans tout ce qu'on peut appeler la vie de l'oiseau, les insectes, la biodiversité en général, le loup n'apporte pas grand-chose. Donc je vois pas pourquoi se défendrait. C'est bourgeois, quoi. Voilà.
Surtout qu'il attaque plus les animaux domestiques que sauvages, a fortiori.
Alors, il y a un effet, quand même, qu'on peut pas lever ça, c'est qu'il a tendance à aller chercher les animaux les plus faibles, plus faciles à attraper. Donc on se dit, il y a une forme de nettoyage. qui est excellente chez le retour, par contre, parce que lui, il attaque les animaux morts, et il les nettoie de suite avec les animaux, parce que les animaux morts, ils sont morts de quelque chose. Ils sont morts d'une maladie, les vautours vont nettoyer ça, le tube digestif d'un vautour était un pH extrêmement acide, et il va détruire, couchez-toi, ça suffit, il va détruire tout ça dans ce tube, donc il nettoie. Il fait un travail de nettoyage qui est extraordinaire.
Il laisse plus rien, quoi.
Ouais. Il laisse plus rien. Bon, le loup, il va manger le chevreuil qui a la paratuberculose, par exemple. Bon, il va manger le chevreuil qui attaque les petits arbres qui sont plantés dans la vallée. C'est très bien, comme ça, les petits arbres sont préservés. Bon, ici, il y a quand une densité de brebis un peu trop importante pour qu'on laisse la place à ce type de... Voilà. Ouais. Bon.
Toi, depuis combien de temps tu es agriculteur ?
Je suis installé en septembre 2003.
D'accord.
Donc, c'est une petite exploitation que j'ai repris et que j'ai ramenée au GAEC existant, parce que le GAEC existe depuis 1987. C'est mes parents qui se sont associés avec Thierry Marty, donc le plus ancien des associés aujourd'hui. Donc, j'ai ramené une petite exploitation du village, rattachée à celle de mes parents et celle de Thierry. Donc, de 2003 à 2006, quoi. Mon père est sorti en 2006, ma mère est sortie en 2017. Et entre-temps, en fait, on s'est regroupé avec deux voisins de plus. Mmh. Voilà, avec Guillaume
et... Et t'as toujours fait ça ou t'as vu...
Ah ouais, j'ai toujours fait ça, ouais. Mmh. Ah ouais. J'ai fait l'école à CEDAF, à Casota. Ah ouais. Je voulais partir en BTS à Toulouse. Bon, j'avais pas assez de points pour poser ma candidature, donc j'ai pas voulu partir à Albi. J'ai préféré partir après, j'étais bossé, faire du service remplacement, puis j'ai gagné 4 sous, je me suis payé un stage de 6 mois, je suis allé en Australie. Mmh. Je suis resté 7 mois là-bas.
Avec des moutons ?
Voilà, j'ai fait brebis, ouais, brebis c'est là, c'était là, ouais, beaucoup pour la laine. Et puis bon, ça va bien, je sais pas si c'est formateur, quoi. Ouais. On le voit surtout par rapport à l'aspect humain, quoi. Ouais. C'est comme phrase, ça se plaît beaucoup, mais on se rend pas compte que quand on est ailleurs, on devrait peut-être regarder qu'est-ce qu'on a en phrase, quoi.
Ben oui, mais tant qu'on n'est pas allé voir ailleurs...
Voilà, donc je pense que ça suffit pour se dire en phrase, voilà, c'est... Enfin bon, après c'est mon point de vue, bon... Ouais. Là-bas, j'étais l'année où il y avait une sécheresse importante. Ils m'ont dit il faut que tu partes, parce que même les stagiaires, je n'étais pas payé pour dire. Hein. Même le petit salaire qu'ils m'ont donné, ça commençait à être très tendu. Quoi. Donc j'avais des clôtures à poser pour eux là-bas, mais quand on avait fini le stock de fils, parce que c'était des fils Gallagher, des fils de clôture, quand les clôtures étaient posées, on ne pouvait plus aller voir l'autre.
Bonjour. Radio Sainte-Afrique.
Voilà, ça enregistre.
Vous voulez dire un petit mot ?
Voilà, Thierry, ouais.
Oh. Pas spécial, hein ?
Bon. Il vient d'amener les brebis.
Bon. Allez. Bah, je le travaille encore un peu, après je vous le rends.
Ouais. Qu'ils disent pas trop de conneries, après.
Alors, bah, ça, c'est... Moi, j'en sais rien.
J'ai dit que t'étais le plus ancien du GAEC, c'est pas faux.
Ah oui, oui.
Installé en 87.
En 87, ouais. 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 Eh, bientôt la quille, hein.
À mesure qu'il la repousse.
Ben ouais, c'est ça. Et donc le système de... Voilà, on s'écarte un peu, mais ouais. Le système de retraite à points qu'ils veulent mettre, en place, ça ne concerne pas l'agriculture.
On est concerné, on a des points, on a mis ça. On a des points, on a mis ça, c'est un système de retraite à points, mais qui est plafonné, hein, ça 8 points. Ou ça 12 points, maintenant ça a évolué.
D'accord.
Ça fait que si vous gagnez plus, vous êtes toujours ça 12 points.
Ah, ouais.
Quelqu'un qui est un agriculteur qui gagne en net, il se prélève 1200 ou 1300 euros par mois, et quelqu'un qui s'en prélève 4000, s'il arrive au nombre de points, je ne sais pas exactement combien il faut avoir de revenus net déclarés pour arriver à 112 points, peut-être c'est 1500, 1600, bon voilà, mais quand vous êtes à un certain plafond, vous n'aurez jamais plus de retraite. Donc à vous de vous débrouiller avec vos comptables et tout ça, d'optimiser votre situation et d'aller faire une retraite à côté. En laissant cette retraite à ce régime-là et à ce niveau-là de rémunération-là, on laisse un choix évident à celui qui doit se poser la question d'y aller à la retraite ou pas. Pour accrocher, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui vaille le coup. C'est mieux d'avoir du temps à la retraite, mais si vous n'avez pas un radis pour prendre le camping-car pour aller faire le tour, ça ne sert à rien. Donc autant rester sur la ferme, sachant que c'est quand même un métier passion, un métier agricole, il faut appeler comme ça. Quelqu'un qui a fait toute sa vie sur un métier agricole, raccrocher net, c'est dur. Je ne vois pas le problème après s'il reste jusqu'à 62, 65 ans. C'est tous les agriculteurs qui restent et qui font de la rétention de foncier, qui ne libèrent pas le foncier, qui laissent tout ça avec de l'herbe, que ça produit. D'accord, ça fait le travail, l'herbe. Il y a un côté environnemental qui est très important par rapport à l'herbe. On est d'accord. On ne produit plus. On achète n'importe. on voit la souveraineté agricole en France, c'est commence à être limite. On produit de la merde pour les autres et on ne produit pas du propre pour nous. Mmh. C'est quand même fabuleux, ça. Enfin, moi, c'est mon point de vue.
Et ça favorise les fermes de
grande taille. Non, les fermes de grande taille ne sont pas favorisées par ces phénomènes-là.
Non.
Il faut arrêter de dire. Hein. Moi, je vous le dis comment je le pense.
Mais je suis là pour ça.
Moi. On est quatre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé sur une grande ferme? Prenez un peu l'historique. Hein. C'est quatre mecs qui galéraient tout seuls, qui se sont mis ensemble. Alors, l'écuma, c'est quatre voisins qui galèrent ensemble, qui achètent un tracteur ensemble. Alors, quand on fait ça dans un grec, on en prend plein de la figure. Mmh. Mais quand on fait ça entre quatre voisins qui achètent un tracteur ensemble, ça se passe très bien parce que, ah, ils sont pas cons, les mecs. On a acheté un tracteur tout seul chacun, ils en ont acheté un gros pour tous les quatre. Mmh. Et nous, on fait un grec, au lieu d'avoir quatre retraites, quatre tanks calés, quatre quads et quatre fois des clôtures à faire par jour, il y en a qu'un qui le fait le grec, les autres s'occupent du boulot ailleurs. Ah ouais, ah, mais c'est une grosse ferme. Mmh. Il faut prendre un ratio. 1993, dans le sud d'Aveyron, on avait 300 mobiles chacun. Grosso modo, par exploitant, on faisait volume modelé. Bon, depuis 1993 à 2013, on travaille 30 hectares de plus par actif, on traite 30 rubis de plus, elles font 30 litres de plus chacune, et nous, on n'a pas gagné un radis de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le bénéfice qu'on donne au machinisme agricole, à la rapidité, donc on travaille sur des hectares de plus en plus grands, des champs de plus en plus grands, ça c'est un tort, donc on fait tout plus vite, et avec moins de monde. C'est un tort. Parce qu'en réalité, tout ce bénéfice-là qu'on fait, nous, on fait plus d'heures de tracteurs, les tracteurs sont plus puissants, ils sont plus larges. Ça profite à l'industrie. Ouais. À la fin, ça profite aux consommateurs. Parce que le prix ne monte pas, ou en tout cas, ne monte pas à cause de nous. Parce que le prix de lait, il est identique de 1993 à 2013, il est exactement aux matières grasses, aux matières protéines, il est payé au même prix. Alors, on nous dit, faites des économies, Michel, organisez-vous. Ça, c'était le discours de Roquefort, je suis désolé. Organisez-vous, vous pouvez faire mieux. Alors, on travaille sur les coûts de production, prix de revient, etc. Qu'est-ce que c'est un coût de production? Vous allez dans les usines, vous allez voir, ils vont dire, pas de tableau, Excel, coût de production, tant de mecs au bout d'une chaîne, si la chaîne elle fait plus de volume d'emballage, avec le même nombre de personnes, vous allez gagner à la fin. Mmh. Donc vous allez réduire le prix d'emballage. Nous, on nous demande de réduire les coûts de production, de faire un prix identique alors que l'inflation augmente à chaque année.
Oui, c'est ça.
Donc en réalité, la question, on doit se poser la mer, on va se dire, on doit travailler tant de surface, parce que la terre, elle est là, elle est présente, on doit nourrir tant de monde, etc. On produit, chaque actif fait son travail. Et à la fin, on regarde le prix de revient. Et il y a une valeur à respecter entre le coût de production, ce qu'on appelle le produit équitable. La laiterie avec qui on travaille sur des marches-là. C'est qu'on est en bio depuis 2009, on livre de la laiterie qui dit voilà, rentre dans des marches équitables, c'est-à-dire que le producteur doit avoir un taux de rémunération suffisant par rapport à ses coûts de production. Donc, quand on part sur une année N, on se dit bon, mais tous les producteurs qui sont posés à la laiterie sont contents et satisfaits du prix. Si l'augmentation de coûts de production, comme ça a été le cas en 2020, c'est plus 6,3% à l'année de revenus bio, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine quand on se voit à la laiterie, on dit voilà. On sait que vous avez besoin de 6,3% de plus pour faire le même volume de lait. Nous, on ne pourra pas vous donner 6,3% de plus parce qu'on ne pourra pas le répercuter au consommateur. Donc il va y avoir une coupe mal taillée, on dit voilà. Il va falloir faire des produits avec une valeur différente, un emballage différent, travailler sur notre produit, gagner aussi pour eux la même marge, et aux distributeurs, raboter la marge. Donc en fait, c'est un travail que font derrière nous les industriels et les transformateurs et les distributeurs. Mais ça se reconnaît, ça. Aujourd'hui, le consommateur est prêt à payer plus pour acheter un produit de qualité et qui rémunère les paysans. Après, il y a des marchés. Quand vous rentrez en bio, équitable, ou même HVE, comme c'est le cas chez nous, bon, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pas une histoire de taille d'exploitation. C'est pas une histoire de taille d'exploitation, parce que ça, c'est un fantasme. Le foncier, qu'on appelle le sol. Ouais. C'est un grand mot, le sol, la terre. À chaque fois que vous dites une grande exploitation, ça éloigne des certifications des villages, les écoles se vident, etc. Sur une grande exploitation, à partir du moment où il y a l'activité sur l'exploitation, si ce n'est pas un agriculteur qui travaille, c'est le gars qui vient réparer les machines. Parce que un homme, ça a deux bras, deux jambes, cinq doigts chaque main, quand même il y a une grande exploitation qui a des machines, ils ne feront pas tout le boulot, donc il va me faire refaire. Donc c'est les entreprises extérieures qui vont venir le faire. Peut-être que des fois, le gars qui bosse chez le marchand de machines à traire, il habite dans le village. Donc, je ne dis pas que c'est... Sur le sud d'Aveyron, il y a des zones où ce n'est pas très peuplé, ça n'a jamais trop été. Je n'ai pas d'opinion particulière dessus. Je me dis, les grandes exploitations, quand c'est géré à l'arrache, mais il n'y a pas de taille pour gérer à l'arrache. Ce n'est pas l'histoire de taille. Il n'y a pas les grands bêtes et les petits cons. C'est les petites déjà et les grands cons. Je veux dire, ce n'est pas l'histoire de taille. Voilà.
Donc, pour revenir à ton exploitation, est-ce qu'aujourd'hui vous en vivez bien?
Moi, j'en vis correctement, ouais.
De votre travail?
J'en vis correctement, je m'éclate.
Comment vous vendez à qui?
Alors le lait, c'est Tribalin, la bergerie de Lozère. Donc tout a été dévolu de lait, de 13 février au 30 septembre maintenant. Les agneaux, c'est fini à Unicor, un peu à Provia. Donc valorisé en bio certain, on n'a pas de valorisation correcte en bio sur la viande. Voilà.
Et c'est mieux valorisé quand c'est en bio?
C'est un peu mieux valorisé quand c'est en bio, et surtout, bon, même si au départ on se dit qu'on ne vend pas forcément plus cher quand c'est en bio que conventionnel, sur l'agneau, ce qu'on voulait absolument que Unicor soutienne, c'est de développer une filière de vente, donc derrière, hein, à partir de l'abattoir, bio. Donc ils aient des marchés bio qui s'ouvrent.
Ouais,
à
Brebis,
c'est vrai. À Brebis, ça y est, ça s'est réalisé. Des collectivités, etc. Ils ont du marché sur la viande de brebis bio. Mais l'agneau, c'est dur.
Ouais.
C'est dur parce qu'en fait, à la fin, ils arrivent avec des prix quand même assez élevés. Et le consommateur, bon.
Elle avait les yeux clairs et la robe en velours. À côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas, elle apprenait les livres, elle apprenait les lois, elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas, comme toi qui dors en rêvant à quoi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. D'autres gens n'avaient décidé autrement. Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi ici et maintenant.
Est-ce que c'est un métier, toi, que tu conseillerais?
Ah ouais, complètement, ouais.
Il faut être motivé quand même.
Non.
Il faut avoir la passion, comme tu dis.
Ouais, il faut avoir la passion, mais juste un peu d'éveil, quoi. Arrêter de sortir des tableaux Excel et... Non, je dis ça, mais c'est
un cliché. C'est quelque chose qui t'agace.
C'est un cliché, non, mais attendez, mais quand il vous dit il faut apporter ta main, t'arrêtes, observe. Tu vois, si t'as planté là sa gueule, c'est quand elle est malade. Si elle est malade, c'est quand il y a un truc qui ne va pas. Et c'est pas un produit qui a des millions qui va t'arriver le problème. Si elle est malade, c'est où qu'elle n'est pas là où il faut. Ou c'est que le temps, il fait qu'elle a pris trop froid ou trop chaud. Mais au bout d'un moment, il faut observer, quoi. Dis-moi ça, de l'observation, puis après, il faut pas se prendre la tête, c'est la nature qui commande. Hein. Ouais. Tu lâches tes brebis, voilà, après, ouais, observer.
Et puisque tu observes, est-ce que tu vois des effets du changement climatique ou quoi?
Ouais. Ah ouais.
En quel terme?
Alors, on change de température, je pars d'une semaine à l'autre, rapidement.
Ouais, c'est vrai.
Les vents, toujours, ça souffle. Mmh. C'était plus calme à des périodes, mais là, c'est tout le temps, ça souffle. De sens à l'autre, mais ça souffle tout le temps. Bon, les phénomènes accentués, voilà. Je ne dirais pas qu'on aura moins d'eau. Je ne crois pas qu'on aura moins d'eau. Par contre, on ne l'aura pas répartie pareil. On aura la grosse douche quand on ne s'étend pas. Et le problème qu'il y a, c'est l'érosion des sols. Suite à ce que ça va impacter, c'est l'érosion des sols. Donc le travail du sol en bio m'inquiète. En conventionnel, aujourd'hui, je ne travaille plus à terre. Je faisais du semi-direct et j'utiliserai les phytosanitaires.
Et est-ce que tu as une idée de ce que deviendra l'agriculture ou pourrait devenir l'agriculture dans les années à venir?
À l'avenir, je ne suis pas inquiet pour l'agriculture française. On est assez dégourdi pour continuer. Le modèle agricole doit évoluer, surtout dans la tête. Hein. Dans les pratiques, on fait ce qu'on peut. Je pense qu'aujourd'hui, quand quelqu'un veut mettre rentable, il fait du mieux qu'il peut. Et souvent, les deux sont associés. Quand ça n'a pas de bon sens, c'est qu'on fait n'importe quoi, ça coûte cher et ça ne rapporte pas. Donc, presque, c'est valable aujourd'hui, les engrais coûtent très cher, les produits phyto coûtent très cher. Donc si le gars il va mettre qu'il en mette, mais c'est son portefeuille qui prend cher. C'est la nature après cher, mais le portefeuille aussi. Mmh. Donc, vu qu'il y a une liaison entre les deux, je ne suis pas forcément inquiet par rapport à ça. Mmh. Les mecs qui font n'importe quoi, ils sont déjà en difficulté. Je ne dis pas que... Et puis c'est pas facile. Le climat ne nous arrange vraiment pas du tout. On faisait des lentilles de consommation humaine, on a arrêté cette année. Mmh. Voilà, attaqué en 2013, on a fini, on a arrêté cette année. Et on a des excellentes, ça marchait super bien, on les vendait super bien. Par contre, le premier cas, c'est pour les faire pousser. Quoi. Ouais. À la sorte,
il faut une présent. Terre plus riche.
Non, il faut arriver à avoir pas dans 10 mm, fait jouer. Et qu'avant, il fasse quand même pas des froids trop tard. Et cette année, on les aurait faites, on a eu des problèmes avec le froid trop tard.
Mais sinon, dans l'avenir, tu penses que le modèle agricole tel qu'il est aujourd'hui, il va perdurer?
Ou il
va devoir évoluer?
Il déjà, alors il y a un truc qui est important à dire. C'est qu'on dit souvent, il faut que les paysages changent. Il y a des générations qui s'installent, des fois des deuxièmes parties d'activité à la vie. Les gens qui ont fait un métier, ils ont 10-15 ans dans un bureau, ils ont la tête bien faite, ils arrivent avec un outil et un modèle agricole bien réfléchi. Et ces gens-là apportent. Un modèle agricole apporte déjà au niveau ouverture d'esprit, apporte aussi en termes de démographie dans les villages, parce que ce n'est pas forcément des modèles d'agriculture qui sont gourmands en surface. Mmh. On aura des petites productions, blé panifiable, des fermières, des transformations à la ferme, qui valorisent mieux des plus petits volumes, mais pas tellement, c'est très gourmand maintenant. Mmh. Donc, on y revient à ce modèle-là, on le voit, c'est un modèle assez fait, moi je ne sais pas, mais on le voit. On l'appelle le circuit court, ça fonctionne, c'est gourmand maintenant.
La vente directe.
La vente directe, c'est court, il y a les clients, il y a les demandes, les collectivités locales sont présentes là, on l'a vu en lundi, très présentes là. Les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour mieux manger. Je dirais même, suite au Covid, on a senti un engouement en particulier pour le local plus que le bio, parce que nous, on est en bio et on vend des lentilles en bio et localement. Et ils recherchaient plus la trace de l'achat local, de l'acte d'achat local pour avoir le contact du producteur que l'étiquette bio. Les gens s'attachent. Attends, je vais te citer. Ça tourne, ça enregistre.
Ouais, ça enregistre.
On livrait des lentilles à Biocoop. Je prends un cas personnel, un exemple, et tout se reflétait là-dedans, et j'arrive le soir, je me suis retrouvé bété. J'ai dit, ma Skoda, ils ont lenti, et puis bon, j'ai dit, le jour, t'as mis un propre, mais un habillé du travail. T'es propre. Mais bon, c'est quand même un pantalon qui est un peu usé, chaussures au travail. T'es propre. J'ai livré mes lentilles à Biocoop, à Mio. Donc j'avais deux Biocoop, sous des quantités de lentilles astronomiques à chaque semaine, c'est bon. Et chaque fois que j'avais au dépôt, je vois la main, et je pose mes seaux. Parce que j'avais affiché un concept, on posait les seaux pleins et récupérait les seaux vides. C'est vraiment malade, c'était du vrac. Et après, il y avait des petits seaux de 1,5 kg pour que les gens venaient remplir après au vrac, au rayon vrac. Je pose mes seaux, je reprends mes seaux vides. Attends, je vais t'aider à les descendre. Tout le temps, vous voyez, Et j'arrive au dépôt. Le jour où je suis arrivé un peu barbu, avec les vêtements de travail un peu moins nickel que d'habitude, c'était tu. C'était plus vous. Là, je me dis, ça y est, je fais partie de la famille. Et je me suis dit, attends, si tu dois être producteur qui livre dans des magasins de producteurs locaux, bio, ou des AMAP, tu commences ça, si tu veux être un producteur quelque part, pas soigné sur toi, ça veut dire que tu es un producteur que tu n'as pas le temps de, de t'habiller propre et de te raser. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas le temps de t'occuper de toi, tu n'as peut-être pas le temps de t'occuper de ta famille. C'est-à-dire que tu es peut-être un producteur qui est un peu surchargé de travail et peut-être pas bien dans ta peau. Mais si le consommateur de BioCoop aujourd'hui, il veut acheter un paysan qui est chi, un paysan qui souffre, qui est tout seul, parce que le paysan, il faut qu'il soit seul, qu'il travaille à la mano, qu'il n'ait surtout pas un gros tracteur parce que c'est l'image à détruire, et que le mec, il faut qu'il aille chi, ben allez-y, achetez à des paysans qui aillent chi. Moi, non, moi, je ne cautionne pas du tout cet acte d'achat. Acheter à quelqu'un qui travaille responsable, mais qui ne souffre pas, quoi. Et la laiterie, il prend garde à ça, et je trouve ça très bien, parce que la laiterie vient sur place. Hein. Les techniciens de la laiterie, alors, qu'est-ce que vous avez comme vie de famille, hein. Parce qu'aujourd'hui, il faut une vie de famille, une vie au travail, et une vie privée, s'éclater le sport, la chasse, chacun. S'il y a un type, un paysan qui se tue tous les jours, qui se flingue deux jours dans l'agriculture, hein, c'est parce qu'il y a un déséquilibre entre ces droits-là. Ou le mec, il est coincé au boulot, il a le banquier sur le dos. Ou le mec, il n'a pas de vie de famille parce qu'il n'a pas pris le temps d'en avoir une, et il s'aperçoit qu'il a 50 de balai et que c'est trop tard pour avoir une faille. Ou le mec, il prend pas peu de temps pour lui, pour aller à la chasse ou en balle ou faire un coup avec ses copains là, au café. Et cet équilibre-là, des trois points, c'est très important. Il ne faut surtout pas le détruire. Donc en réalité, quand on va, par notre achat, un acte d'achat, orienter, dire voilà, écoute, j'achète au paysan qui souffre, au mec qui fait. Parce que attention, une position fermière, c'est quoi, c'est le mec. C'est le matin, il est très oui, ou c'est chèvre. Il se charge. Parce que tu ne vas pas aller à l'outil de transformation comme t'es habillé quand t'es en bergerie. Tu te charges. Tu vas transformer. Sors de là, bon, mais qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, hein, t'es un truc, il fait 4 degrés, et tu transformes. Tu ressors de là, tu vas chercher tes gosses, etc. Bon, entre temps, il faut aller travailler tes terres. Si ça veut dire que tu achètes du foyer, sinon. Pour produire, comme on dit, mise à métier, mise à misère, pour produire de l'herbe, produire du foin, donner à manger à des brebis, transformer et vendre, tu ne peux pas être seul pour faire ça. Tu ne peux pas être seul pour faire ça. Alors, des gros gaecs, qui sont sexistes, ça fonctionne du tonnerre. Parce que vous mettez deux mecs spécialisés. Nous, c'est le cas ici, on est spécialisés. Hein. Pour que ça t'a donné dans un gaec entre tiers, c'est qu'il y en a un qui est chef aux cultures, un qui est chef à la bergerie, un qui est chef à l'atelier au bureau. Et les autres associés, quand ils travaillent avec celui qui est en poste, en fait, c'est celui qui est en poste qui dit ce qu'il faut faire. Quand en bergerie, il nous dit bon, ben, c'est, maintenant, il faut qu'on médaille les brebis, qu'on médaille les agneaux, il nous dit demain, médaille. On regarde si on a rien d'autre qui urge avant, et hop, demain, médaille. Et tout le monde, le lendemain matin, on n'a pas besoin de discuter. Je vous le dis sincèrement, le modèle qui est soutenu par l'opinion publique aujourd'hui, c'est des fois une agriculture qui souffre, mais je veux dire humainement. Et je la cautionne pas.
Qu'il n'y a pas d'avenir.
Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'avenir. C'est que...
ben, si le gars il est un peu plus, au bout d'un moment, il va arrêter, ou alors il va tomber malade.
C'est... faut pas mentir aux gens. Il faut acheter ce qu'on est capable de produire. Mais dans une... on a un modèle social aujourd'hui, tout le monde s'en rapproche. Le temps libre, les sports open nature, Mio, c'est la vie, ça l'est gravé. Peut-être des demi-heures, tu cours pas. Non, je cours pas. Tu fais pas du parapente. Non, je fais pas du parapente. T'as pas le temps. Et je dis, non, j'ai pas le temps. Tu fais quoi? Je suis paysan. Ah ouais. Et c'est beau ton métier. Ben, je vais mettre là, toi. Je fais pas tout ça. Voilà. Après, déjà, un, gagner la vie. Deux, avoir un peu de temps libre et avoir une vie de famille. Je pense que c'est le, voilà, les trois piliers, comme je disais, importants. Après, tous les producteurs bio, tous les producteurs fermiers souffrent pas dans ce qu'il faut. Mais l'image. De se sentir proche de ces magasins BioCoop, quand on n'est pas bien rasé, vous voyez ce que je veux dire, m'a choqué. Voilà. Parce que quand j'allais livrer au cuisine central au Marseille Marc, j'avais derrière les nickels. Parce qu'au cuisine central, ils m'attendent avec un pion, un bouquet, hein, comme les magasiniers, et ils notent la propreté du véhicule quand j'arrive. Donc si j'étais pas noté A, voilà.
D'accord.
Ça ne le faisait pas. Donc, bon, c'est un travail que je faisais. Enfin, sincèrement, il y a un équilibre qu'on va trouver là-dedans. Entre ce que les gens paraissent, ce que les gens disent, ce qu'on entend en radio, ce discours bourgeois bohème. Voilà. Non, mais
c'est bien de.
Mio,
c'est bien
d'en discuter. Je le dis avec la mairie, la commune en place, il y a un très bon comportement vis-à-vis de ça. On ne parle pas de nous, on parle pour nous déjà. Le monde agricole existe et il est pris en compte. Et je dirais, et pourtant il n'y a pas de paysanne dans le conseil municipal. Mais tant mieux. Et ça me convient très bien.
Ok. Bah, merci Bertrand.
Bon, c'est parce que
oui, il t'attend depuis tout à l'heure.
Merci. Allez.
Bon, ben merci.
Ciao, ouais.
Merci à Bertrand d'avoir pris le temps de nous recevoir. Parole rurale est diffusée les mardis à 8h10, puis jeudi à 18h et dimanche à 14h. Sinon, retrouvez-nous en podcast sur notre site radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.